Bonsoir, Autre Radio, Autre Culture, émission également diffusée sur audiopeople.fr. Ce soir, nous avons la joie de retrouver Alexandre Buissou, qui dirige l'atelier d'Alexandre, qui est un atelier de guitare et de construction de guitare, donc de lutherie.
Absolument.
Et qui se trouve à Orsay.
Absolument. Bonsoir.
Bonsoir Alexandre. Vous avez quelques petits mots à dire, je pense.
Alors, je voudrais saluer Christophe, parce que j'ai appris qu'il était un petit peu malade, donc on va penser à lui ce soir. Et également dédicacer cette émission en la mémoire de Guillaume Depardieu, qui est décédé aujourd'hui, et qui était un artiste de grand talent. Et j'imagine que ça aurait pu l'intéresser, ce type d'émission. Donc, Guillaume, on pense à toi.
Voilà. Un petit coucou à Guillaume, quelque part. Voilà. Eh bien, nous nous retrouvons donc pour cette aventure américaine qui s'est passée cet été, où Alexandre est allé voir les ateliers des guitares Martin.
Même plus que ça.
Alors, racontez-moi.
j'ai pu les voir, visiter ce fantastique endroit qui n'a pas bougé depuis début 1900, un peu avant 1900. Donc on reste au même endroit depuis cette période-là.
Même avant, puisque les ateliers Martin... Alors les ateliers Martin sont en Pennsylvanie, c'est ça?
C'est ça, à Nazareth, exactement.
À Nazareth, et ils existent depuis 1833.
Alors, petite rectification, en 1833, ils étaient à New York.
Oui.
Si je ne me trompe pas, courant 70, c'est-à-dire 1870, quelque chose comme ça, ils ont migré vers Nazareth. La famille Martin, pour retrouver un endroit, un paysage, une terre qui ressemble à leur Allemagne natale.
D'accord, ils sont d'origine allemande.
Allemande, complètement. Donc, à partir de cette date-là, ils restent à Nazareth, ils s'installent à Nazareth, et depuis, ça n'a pas bougé. Je trouve que c'est génial.
Alors, j'ai appris que le directeur actuel de Martin, c'est l'arrière, petit-fils.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est resté complètement dans la famille depuis le début. C'est toujours les enfants qui ont repris, à part une génération, je crois que c'est un frère. Mais sinon, ça a été les enfants qui ont repris l'entreprise familiale. Et depuis, c'est resté dans la famille. Donc là, on est sur CF Martin 4.
D'accord. D'où vient cette notoriété des guitares Martin?
De leur qualité, j'imagine. Parce que c'est surtout... Monsieur Martin Ier, hein, donc senior le premier, c'est l'inventeur de la guitare folk, tout simplement. C'est lui qui a mis au point tout un tas de procédés, notamment, sans rentrer dans les détails techniques, le barrage en X, qui permet cette tension de cordes que sont les cordes métal, et ce son aussi particulier qu'est la guitare folk. Avant, on jouait beaucoup avec des cordes en boyau, en nylon. Mais ce type de tension et de corde, c'est lui qui a permis de le faire évoluer, et c'est lui qui a permis, qui a inventé clairement la guitare folk moderne, sur laquelle on joue aujourd'hui, quoi. Et tout le monde l'a copié.
Mm-hmm.
Les plus grands, comme Gibson, comme tout un tas de luthiers, moi-même je m'inspire de ce que il a fait.
Alors comment en arrive-t-on à aller chez Martin et à... Vous avez travaillé un petit peu avec eux, comment ça s'est passé?
Pour être franc, je sais pas, je pense que j'ai beaucoup de chance. C'est un concours de circonstances, par différentes connexions, j'ai pu à un moment donné aller faire déjà un premier repérage, entre guillemets, chez eux, donc être accueilli par des hauts responsables de chez Martin. Et je dirais que là, j'ai eu le culot de leur demander s'il était possible de profiter de leur notoriété, de leur savoir-faire, pour pouvoir me former. Et coup de chance, ça a fonctionné, et plutôt bien. Donc ce n'est que le début d'une grande aventure, je pense.
Mmh. Mmh. Quels ont été les contacts là-bas, une fois arrivé?
Alors moi, j'ai été reçu par le responsable, c'est un peu compliqué, mais par le responsable des achats internationaux et des ventes internationales. Ce monsieur m'a présenté au responsable de ce qu'ils appellent le département réparation, qui en fait regroupe une dizaine de luthiers qui eux s'occupent uniquement les réparations des guitares. C'est un département qui se situe juste à côté du Custom Shop, qui lui-même est un endroit où on peut se faire fabriquer une Martine, selon des spécifications particulières. Ça nous a permis, en tout cas moi, ça m'a permis de travailler et de voir des instruments que j'aurais jamais eu l'occasion d'avoir entre les mains. Soit parce qu'ils sont extrêmement rares et ils appartiennent pour l'instant à des musées ou des choses comme ça. Ou alors parce que ça appartient à des artistes que pour l'instant j'ai pas eu l'occasion de rencontrer.
Est-ce que leurs luthiers sont entièrement formés par eux, ou alors ils viennent également de diverses écoles et qu'ensuite on leur apprend la méthode Martine, pardon.
Non, alors la majorité des gens, je dirais même pour ainsi dire tous ceux qui se retrouvent dans ce département-là, ont été formés chez Martine. C'est des gens qui ont un savoir-faire de lutherie, donc qui travaillent à côté également. Par contre, qui ont fait, le tour de l'usine et qui ont voulu être dans ce secteur-là particulièrement. Mais qui connaissent tous les principes, toutes les étapes et tous les systèmes de fabrication typiques de Martine.
Alors comment vous reçoivent-ils dans ces cas-là, vous, luthier français ?
Comment dire ? Déjà très bien, il n'y a pas de doute. Je pense que j'ai dû les faire un petit peu rigoler. Faut m'imaginer arrivant à l'usine un lundi matin avec mon dictionnaire d'anglais sous un bras et puis une guitare sous l'autre bras, à restaurer bien sûr. Alors ça les fait sourire, mais je pense qu'ils ont beaucoup apprécié la démarche. Ils ont été très surpris qu'un petit luthier entre guillemets comme moi fasse l'effort de venir jusqu'à eux. Et puis clairement ils ont vu que mes yeux brillaient.
Oui. Ça
aide beaucoup. Voilà, exactement. Et puis ça ment pas.
Alors comment ça se découpe une journée de travail chez Martine quand on vient de l'extérieur ? Comment voit-il les choses ? Est-ce qu'il voit les choses de manière différente ? Comment ça se passe ?
Non, alors disons que comparé au rythme de travail que moi j'ai, la première chose qui m'a extrêmement surpris, c'est l'heure à laquelle il commence. Ça commence à partir de 5h du matin. Donc 5h du matin, il faut les imaginer devant l'établi à 5h du matin. Ça veut dire qu'on s'est levé déjà un peu plus tôt. C'est pas une habitude que j'ai. C'est-à-dire que même si j'arrive quand même aux alentours des 8h, 5h du matin, ça fait tôt. Donc ça a été le premier choc. Mais on s'y fait assez vite. Par contre, ça fait des grandes journées. Ils ont une pause, je dirais vers 11h, de 10h30, 11h, de 5-10 minutes, qui leur permet de boire un grand café chaud. Qui n'est pas vraiment du café. Les Américains, ils ne savent pas faire le café. Ils savent faire d'autres choses, mais pas le café. Et à 14h30, 15h, ils ont terminé leur journée. Mm-hmm. Donc ça fait quand même des grandes journées. Et très souvent, enfin pour nombre d'entre eux, à partir de 15h, ils démarrent une autre journée. Et ils vont travailler soit à leur compte, soit dans une autre boutique, enfin à un autre endroit, pour différentes raisons, soit par passion, mais principalement pour raison financière, parce que comme pas mal d'Américains, enfin en tout cas j'ai rencontré, on connaît un peu leur système de santé, toutes ces choses-là, ils ont besoin d'avoir souvent un complément.
Mmh. Est-ce que ça leur arrive de fabriquer, sortant de l'usine, enfin de l'entreprise Martine, de fabriquer des clones de Martine avec un autre nom ?
Non.
Ou alors ils ont des contrats, ou ils ont des contrats qui leur demandent.
Non plus. Ils ont vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de respect. C'est des gens qui sont très, très fiers de travailler là. Faut imaginer, pour faire une comparaison un peu facile, c'est comme si j'étais mécanicien automobile et que demain on me proposait d'aller travailler chez Ferrari en Formule 1. Donc on est vraiment à un haut niveau, et tous ceux qui travaillent là-bas sont extrêmement fiers d'y travailler. Ils ne ressentent pas le besoin d'abuser du nom. Par contre, bien évidemment, ils se servent de la savoir pour restaurer, pour fabriquer eux-mêmes. Comme bon nombre de luthiers, on fabrique entre guillemets des clones de Martine. Enfin, il y a des gens qui sont vraiment très, très novateurs, mais là, en l'occurrence... Mais j'en ai pas vu. J'en ai pas vu. La seule guitare que j'ai vue qui n'était pas fabriquée de chez eux, mes parrains de leur luthier, c'était une guitare électrique. Donc, ce qui n'est pas vraiment le point fort de Martine. Par contre, ils en possèdent tous quelques-unes, c'est sûr.
Alors, qu'est-ce qui vous a étonné d'autre? Comment ça s'est passé au niveau du travail? On vous a tout de suite confié une guitare à restaurer. On vous a appris les secrets de Martine, les rudiments. Comment ça se passe?
Ouais. Alors, en ce qui concerne les guitares à restaurer, non. C'est pour ça d'ailleurs que je suis venu avec une de mes guitares, moi, à restaurer.
Parce une guitare Martine ou une
bien
guitare...
Sûr. Oui, bien d'accord. Sûr, bien sûr. Une très vieille d'ailleurs, que j'avais trouvée aux États-Unis avant, et que je me suis permis de le ramener parce que c'était un instrument qui méritait d'être restauré, qui était du début du siècle, hein, en l'occurrence 1919. Parce que en fait, les instruments sur lesquels ils travaillent sont souvent, en tout cas dans cette partie-là de l'usine, sont souvent des très très vieux instruments. Et ils prennent pas le risque de le confier à quelqu'un dont ils connaissent pas le niveau en matière de restauration. Ça, c'est pour le début de l'aventure. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu contempler leur travail et surtout bénéficier de tout leur savoir en les regardant, en posant énormément de questions pendant tout le début du séjour. Et après, j'ai mis en pratique sur ma propre guitare que j'avais ramenée, avec leurs conseils et avec leurs yeux à eux. Et pour être franc, 10 jours, c'est trop rapide.
Ah bah oui, oui.
On n'a pas le temps de voir vraiment grand-chose. Ça reste très succinct. Donc on fait des choses très particulières et on essaye de les voir plutôt en profondeur. Mais on ne fait pas l'ensemble des réparations ou l'ensemble des, de la restauration qu'il pourrait y avoir sur ce type de guitare, quoi. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'envisage et que j'ai été grandement incité à y retourner pour parfaire ma formation.
Est-ce qu'il y a une répartition du travail entre les différents luthiers où chacun prend une guitare et la restaure de A à Z, ou il y en a un qui est plus spécialisé dans une partie de la guitare et il passe le reste, la suite à un autre? Comment ça se passe?
Alors effectivement, il y a une spécialisation. Ils sont tous capables de tout restaurer, hein, de prendre la guitare de A à Z, de la restaurer. Par contre, on a des gens qui... Enfin, chaque luthier s'est spécialisé dans un type de réparation. Vous pouvez en avoir un qui s'est spécialisé dans le refrettage, un autre qui s'est spécialisé dans les renversements du manche, donc les désenclavements du manche, remettre le manche avec le bon angle, d'autres dans les changements de table d'harmonie, refaire les tables d'harmonie. Et en général, ils ont chacun leur domaine de prédilection. Il y en avait un seul qui supervisait l'ensemble du groupe, d'une certaine manière, qui lui était capable de prendre n'importe quelle guitare et en général prenait ce qui arrivait et faisait tout dessus. Mais sinon, chacun son domaine. Ils aiment bien fonctionner comme ça. Je pense qu'ils doivent tourner. Non, ils font chacun son domaine, là. Enfin, dans ce que j'ai vu, en tout cas.
Vous m'aviez dit qu'ils étaient combien au niveau de la restauration?
Une dizaine.
Une dizaine. Est-ce qu'il y a des apprentis avec, en
non.
plus ou pas?
Non. Le seul apprenti qu'il y ait eu, c'était moi. Le petit français.
Alors, qu'est-ce que vous avez appris qui vous a enchanté, qui vous a étonné?
Déjà que ces gens-là, et les Américains en règle générale, sont des gens extrêmement accueillants. De l'autre côté de l'Atlantique, c'est pas forcément l'image qu'on a. On a une image d'un peuple assez pédant et suffisant.
Mais enfin, ils disent la même chose de nous, hein.
Absolument. Mais enfin, en tout cas, les gens que j'ai rencontrés sont des gens vraiment très accueillants qui m'ont extrêmement touché.
Qu'est-ce qui vous a étonné?
Oui.
Qu'est-ce que vous avez appris par rapport à vos connaissances de luthier?
Alors, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris à travailler vite. Ça, c'est quelque chose qui est flagrant chez eux. C'est qu'ils vont très vite. Et très bien surtout. Donc ça, c'est pas forcément tout le temps lié et pas forcément tout le temps évident. Sinon, pour rentrer dans les détails un petit peu de lutherie, alors je sais pas si les auditeurs et les auditrices me comprendront, mais par contre, le reset neck. Le reset neck, c'est un problème qui est typique aux guitares Martin. C'est un problème de hauteur de corde par rapport à la touche de la guitare qu'on peut pas rectifier. Et pour pouvoir le rectifier, ce problème-là, on est obligé d'enlever le manche de la caisse de la guitare, de retailler un petit peu une partie du talon, et de le remettre. Et ça, c'est une opération qui est un petit peu délicate, par contre, qui est très excitante à faire, et que j'ai appris là-bas, parce que c'est vraiment typique de leur guitare. Ça arrive très fréquemment, surtout sur la vieille guitare. Donc on s'est concentré là-dessus, et c'est principalement ce que j'ai vu pendant ces 10 jours de formation. Mais j'ai fait également des changements de chevalet, des recollages de barres d'harmonie, des fractures d'éclisse, des choses un petit peu comme ça qui sont assez fréquentes sur l'ensemble des guitares. Mais ce changement de manche, hein, c'est vraiment typique de chez Martin. Donc j'en ai profité et je me suis concentré là-dessus.
Et par rapport à votre propre création, est-ce que vous vous êtes dit « Oh, ça c'est génial, ça serait utilisé sur mes guitares
ouais. » Du moment où j'ai mis le pied à l'usine, je me suis dit « Oh, ça c'est génial, je vais essayer de tout copier. » Non, mais c'est vrai que j'avais pas de moment de répit, j'étais constamment en apprentissage, c'était complètement ahurissant. Vraiment, la chose qui m'a le plus, sur laquelle je m'inspire le plus, en tout cas, qui m'a donné envie de continuer, c'était la qualité, la non-tolérance du défaut. C'est des gens qui sont extrêmement perfectionnistes, et si la guitare doit être faite complètement de A à Z, on la refait de A à Z. Hein, y a pas de tolérance, et c'est très formateur. Pas de médiocrité, rien. Moi, c'est ce qui m'a le plus plu. Voilà. J'étais surpris. Je pensais que vu la quantité de guitares qu'ils peuvent fabriquer par an, je pensais qu'ils pouvaient laisser passer des erreurs. Mais dès qu'ils en voient une, non, y a aucune erreur qui passe. On recommence tout. Et sur des restaurations de vieilles guitares, hein, par exemple, j'ai assisté à la restauration d'une vieille guitare de 45, si je me trompe pas, une 0017, quelque chose comme ça, qui venait d'être faite par les luthiers, et en arrivant et en l'auscultant avec Lon Werner, qui est leur chef, hein, d'une certaine manière, on s'est aperçu qu'il y avait des petits défauts. Ça a pas duré, hein, il a redonné la guitare, et puis elle est repartie en re-restauration, donc décapage, on refait la guitare, on la revernit. C'est un processus qui quand même met du temps, et on n'hésite pas. Et ça, je trouve que c'est très bien. Pour le type de métier que je fais, je trouve que c'est quelque chose de très formateur.
Est-ce que vous pensez que c'est typiquement issu de chez Martin, ou c'est un peu le caractère américain qui se veut comme ça ?
Le caractère américain, je sais pas du tout.
Non, mais je pense à une chose qui est totalement à côté. Mmh. Je pense à ces vieilles comédies musicales américaines. Quand ils font un pas ou quand ils font un geste, il n'y a jamais un défaut.
C'est vrai.
Et je me posais la question, est-ce que c'est typiquement Martin ou c'est typiquement américain
ce C'est vrai que les Américains ont ce côté-là très, très pro, tout le temps. Que ce soit dans le métro, si vous entendez... un mec jouer sur une guitare ou un groupe de gospel, mais que ce soit au restaurant quand on vous sert, je trouve que, alors peut-être que moi je j'ai pas vécu assez longtemps chez eux pour pouvoir juger, hein, mais c'est vrai qu'il y a constamment ce côté professionnel où on essaye d'être au top tout le temps. Alors moi, je connais pas les autres entreprises, en tout cas chez eux c'est flagrant. Il y a aucune tolérance pour la médiocrité. Et je pense que c'est ce qui fait que c'est une guitare qui a duré. Quoi.
On avait entendu ça aussi de la part d'Evana Manley, qui nous a dit la même chose. Quoi. Ouais. Il fallait que ce soit au top.
Exactement. Et ça paye. Hein. C'est-à-dire que 175 ans après, c'est toujours, pour moi, la plus grande entreprise de guitare au monde. Quoi. Sans fluctuation de niveau qualité, ce qui n'est pas forcément le cas de certaines autres grandes marques.
Mmh. Est-ce que leurs nouvelles guitares sont aussi bonnes et aussi bien vues que les anciennes ?
Alors, il y a deux types de nouvelles guitares chez eux. Il y a les modèles standards qui sont les mêmes que les anciens, simplement récents. Bien évidemment, une guitare qui n'a pas été jouée n'aura pas le même type de son qu'une vieille guitare qui aura été jouée pendant je ne sais pas combien d'années, qui aura vieilli. Toujours le rapport au vin. Hein. C'est un bon vieux vin, ça n'aura pas le même goût qu'un vin jeune.
Ils les mettent pas dans des pyramides pour les faire vieillir mieux.
Non. Non, absolument pas. Mais par contre, ils ont une très très bonne démarche en matière de nouvelles guitares. Ils sont sur des projets de fabrication d'instruments avec des bois durables, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est des bois dont ils gèrent les plantations avec une découpe gérée, pareil. On replante dès qu'on en enlève un. Donc, qui leur coûte plus cher et surtout avec des bois locaux. Ils évitent d'aller les chercher dans la forêt amazonienne ou au fin fond de l'Afrique.
Parce qu'à un moment, ils y travaillent beaucoup sur du bois brésilien.
Bien sûr, ils en ont toujours en stock, qui leur permet de faire des gros gros modèles. Mais par contre, ils travaillent énormément sur des nouveaux matériaux, notamment l'HPL, qui est un genre d'aggloméré de sciure de bois, qui leur permet de faire le fond et les côtés de la guitare, les éclisses, avec cette matière-là, de façon à préserver certains bois. On n'en est qu'au début. Bien sûr que la majorité des gens trouvent que ça n'a rien à voir avec une guitare, ni avec une Martine, ni avec quoi que ce soit. Simplement, eux vous expliqueront que c'est une façon d'éduquer les nouvelles générations et de leur dire que dans quelques années, il n'y aura que ce type de guitare de disponible, parce qu'une guitare en acajou, on ne pourra plus en avoir. L'acajou va disparaître. Donc on va se retourner vers ce type de matériaux. Ils font la même chose avec, par exemple, le cerisier, qui n'est pas forcément un bois extrêmement employé dans la lutherie, sauf par les Canadiens qui l'emploient déjà depuis un certain temps, mais chez Martine, c'est pas conventionnel. Petit à petit, ils y viennent. Donc ils essayent, ils ne sont pas au point sur tout. Et ils le reconnaissent grandement, volontiers. Mais par contre, leur démarche est d'expliquer et surtout de faire entrer dans la culture du guitariste ce type de modèle. Pour que les jeunes, ceux qui vont démarrer la guitare dans 5 ou 10 ans, peut-être qu'ils ne sont même pas nés encore, puissent bénéficier d'instruments qui soient d'aussi bonne qualité que les anciennes. Mais avec des bois qui soient moins chers et surtout recyclables. Voilà.
Mais ça sera pour les guitares finalement. Je dirais pas de bas de gamme, mais...
Non, à un moment donné, ils arriveront à en faire sûrement des moyenne gamme, voire très haute moyenne gamme, d'une certaine manière. Mm-hmm. Bien sûr qu'il y aura toujours un stock de bois et toujours des gens extrêmement fortunés pour pouvoir s'acheter une guitare à 200, 300, 400, 500 000 euros. Hein. Mm-hmm. Ça existera toujours, mais je dirais que le commun des mortels, comme moi qui joue de la guitare dans mon salon, bénéficiera de guitares avec des bois recyclés ou en tout cas avec des matériaux recyclables et de très bonne facture. Et je trouve que c'est une très très bonne démarche.
Alors pourquoi on pense que l'ébène va disparaître? Il n'y a pas des replantations d'ébène
Si, mais c'est comme tout un tas de bois, c'est très long à faire pousser.
Parce que justement, en général, ces bois-là viennent de forêts tropicales, et les bois sont... moi j'ai des connaissances de forêts tropicales où le bois grandit 10 fois plus vite que dans des forêts françaises.
C'est vrai, mais ça dépend quel type de bois. Le bois d'ébène, on n'en trouve pas forcément en Amazonie, mais en Afrique souvent, Madagascar, Gabon, en compagnie, c'est des bois qui sont très longs à faire pousser. Donc si moi j'en plante un là, ce sera pour mes descendants.
Fait comme Colbert. Hein.
C'est ça. Sauf que tout le monde ne le fait pas. Ouais. Et la production de guitare est tellement, tellement énorme qu'on n'a pas les moyens d'aller aussi vite. Donc la solution, c'est de trouver des substituts. Comme dans les années 60-70, on a arrêté la déforestation du palissandre brésilien. Mm-hmm. Parce que on n'en trouve plus et ça allait trop vite par rapport à notre production. Au 19e, au 18e, on fabriquait des meubles en acajou de Cuba. Oui. Maintenant, pour trouver de l'acajou de Cuba, c'est impossible. Ou alors, le peu qui reste, ça atteint des prix complètement exorbitants. Donc, tout ça pour protéger la forêt. Et je trouve que c'est plutôt bien. Et il faut que les guitaristes, en règle générale, arrivent à s'y faire. Je comprends qu'on soit un peu réticent. Moi-même, quand je travaille le bois, je suis pas très excité à fabriquer une guitare en cerisier. C'est pas. Mais il va falloir s'y mettre. Il va falloir trouver des choses qui soient jolies dans des bois locaux. Le noyer est c'est un très joli bois qu'on peut utiliser. Le cerisier aussi.
Est-ce que le poirier est utilisé? Parce que je sais qu'il est utilisé au niveau des, par exemple, des maquettes de bateaux. Est-ce que dans les guitares, on l'utilise?
On l'emploie pour certaines parties de la guitare, ça peut arriver, notamment pour le chevalet.
Parce qu'on arrive à trouver, moi j'avais des souvenirs d'acheter des planches qui faisaient plus de 80
bien sûr,
mètres de bien large.
Sûr. On en trouve. On en trouve, mais le problème du poirier, c'est que c'est pas joli, comme bois. Je suis désolé de le dire comme ça. Mais c'est un bois qui est assez fade, en fait, hein, visuellement.
Oui.
Comment visuellement. Quand vous comparez avec un palissandre, par exemple, ou un acajou.
Ah, mais c'est quand même plus joli que de la poussière de.
Complètement, mais la poussière de bois, elle est recouverte d'une feuille de bois qui donne l'aspect d'un bois. Donc ça fait comme un genre de contreplaqué, en fait, si vous voulez. Hein, donc visuellement, c'est pas spécialement moche. Simplement, c'est surtout dans les problèmes de résonance. Mais à travailler, ce type d'aggloméré, c'est assez nocif. Ça contient des colles, tout ça. Donc, le problème se situe là aussi. C'est-à-dire que il faut trouver le bon compromis entre la déforestation, les bois de qualité, et puis le synthétique, qui est pas forcément moins nocif, puisqu'on utilise des différents produits, qui eux-mêmes polluent l'atmosphère à leur échelle. C'est-à-dire qu'on déforeste pas, mais utiliser des colles, des solvants pour fabriquer ce type de sur de bois, c'est pas forcément mieux. Mais la démarche de se dire que ça va prendre du temps avant d'arriver au bon compromis, et donc de commencer maintenant, je trouve qu'elle est très bonne. Et on devrait s'en inspirer.
Autre partie que j'aimerais bien qu'on parle, et j'aimerais avoir votre avis et celui de Martine. Ici, il y a quelqu'un qui est venu enregistrer un album il y a quelques semaines et qui avait une guitare avec des frettes tracées au laser et ondulées comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais je l'avais expliqué un petit peu dans la dernière émission, si je me trompe pas. C'est-à-dire que j'en pense que du bien, moi. Je trouve que tout ça fait partie du domaine de la recherche encore. Il y a des gens qui sont, j'entends par gens, des musiciens, puisque c'est eux qui jouent là-dessus, qui ont des oreilles extrêmement affûtées, qui ont besoin d'avoir des instruments extrêmement justes. Et ce type de procédé permet d'avoir des guitares beaucoup plus juste que la guitare basique, entre guillemets, qui est de base un instrument faux, comme pas mal d'instruments. J'entends faux, même quand on est accordé, ça reste un instrument qui est faux. Donc je trouve que c'est une bonne voie de recherche. C'est pas une voie sur laquelle moi je me suis dirigé. Par contre, que d'autres le fassent à ma place, je trouve que c'est très bien.
Est-ce que chez Martine ils le font ou pas?
Il y a eu une
envie?
Non, pas du tout. Enfin, en tout cas, moi, je n'en ai pas vu. J'ai vu d'autres types d'essais, notamment des guitares en aluminium, des guitares en carbone. Des guitares avec des mélanges de bois, par exemple, vous pouvez avoir une moitié d'un fond en palissandre, l'autre moitié du fond en acajou, une éclisse en palissandre, l'autre en acajou, des mélanges de bois comme ça, mais sur ce qui est du frettage, j'ai rien vu de particulier. En tout cas, j'ai rien vu de vraiment novateur.
Et au niveau, par exemple, ben moi je suis complètement néophyte au niveau des guitares, donc je connais pas les noms. Au niveau des clés, enfin, je sais pas si ça s'appelle des clés.
Mécaniques.
Des mécaniques. Est-ce qu'ils ont des. Est-ce que vous et eux, vous avez des choix particuliers? Est-ce qu'on recherche particulièrement des mécaniques de telle usine? Alors. Est-ce qu'il y a une recherche à ce niveau-là?
Absolument. Là, en l'occurrence, les gens ne le voient pas, mais on a une Gibson, une Les Paul Gibson standard juste à côté de nous. Donc la maison Gibson a mis au point depuis peu des mécaniques automatiques, donc équipées d'un petit moteur, qui s'accorde automatiquement. Donc c'est un peu compliqué comme procédé, mais ça commence à arriver sur le marché. Et moi-même, je suis en expérimentation d'une certaine manière avec un lycée de mécanique, de micro-mécanique, Je travaille avec un professeur agrégé de mécanique qui veut qu'on essaye de mettre au point un système de mécanique type Gibson, donc automatique avec un engrenage, dans lequel serait intégré un accordeur automatique qui nous permettrait, avec différents types d'embrayage, d'accorder la guitare automatiquement. On est qu'au balbutiement, parce que bien évidemment, c'est pas très esthétique. C'est encore un peu gros, mais petit à petit, si on arrive à réduire tous les mécanismes, on se retrouve avec la même esthétique de mécanique qu'on a actuellement, mais automatique. Alors ça a différents côtés pratiques, hein. Déjà le fait que, imaginons que sur scène, un musicien soit désaccordé, il peut couper sa guitare, elle s'accorde automatiquement, c'est très rapide, et hop, il se remet et il repart.
Ah oui, d'accord.
Donc c'est beaucoup plus simple que brancher sur un accordeur ou s'arrêter plus longuement, tourner à la main. Donc c'est surtout pour ça. Et c'est surtout dans la qualité de précision de l'accordage que ça risque d'être intéressant. Mais pour l'instant, on n'en est qu'au balbutiement pour ce type d'aventure. Par contre, sinon, sur les mécaniques actuelles, il y a bien évidemment des différences flagrantes entre des mécaniques à 20 euros et celles à 500 euros. Qu'on peut trouver faites à la main par des gens spécialisés qui permettent d'avoir un engrenage extrêmement précis. C'est un peu comme tout. Il y a des spécialistes et vous avez des spécialistes de la mécanique, quoi.
Est-ce que chez Martine, ils ont des spécialistes de la mécanique chez eux ou ils commandent dans une autre entreprise?
Ils commandent
Comment
dans
ça
une
se
autre
passe?
entreprise.
Oui.
Ils se font fabriquer les mécaniques. Ce type de pièces, ils ne les fabriquent pas eux-mêmes. Par contre, ils travaillent avec deux, trois entreprises assez connues en matière de mécanique, dont la plus prestigieuse serait Waverly, qui sont des mécaniques faites à la main, d'une extrême grande précision, d'une extrême grande beauté. Voilà, ils arrivent à allier les deux.
Et ils font également de la recherche à ce niveau-là ou pas eux?
Je ne l'ai pas vu. Eux, ils font beaucoup de recherches sur les cordes.
Sur les cordes,
Sur les cordes.
d'accord.
Hein. Ils ont un studio spécial d'enregistrement, d'essais. Alors avec un tout un tas d'ordinateurs, d'oscilloscopes, c'est une vraie caverne d'Ali Baba ce studio. Et là, ils essayent les différents types de cordes qu'ils créent eux-mêmes. Donc avec différents alliages, hein, différentes tensions. Sur un même modèle, ils vont en essayer différentes. Et puis avec un même type de cordes, ils vont essayer sur différentes guitares, ou sur différentes guitares, mais d'un même modèle également. Et là, il y a une vraie, vraie recherche. Mais eux, ils sont, à part l'acoustique même de la guitare, c'est plutôt là-dessus que je les ai vus se focaliser, sur les cordes. Et c'est vrai que ça a une grande importance sur la qualité du son. Des références de cordes, on en a à foison. Vous viendriez dans mon atelier, vous verrez qu'il y a un mur complet de cordes, quoi. Avec à chaque fois des références. Je dois avoir 50 différentes. Donc c'est un peu compliqué.
Alors, on parlait écologie bois avec les ateliers Martine et puis le vôtre. Comment se passe l'écologie vue par Martine au niveau, par exemple, des décorations? L'utilisation de nacre ou de. Je ne sais pas s'ils ont utilisé l'ivoire, mais
Si,
comment
si.
ça se passe alors
Ils ont
maintenant?
utilisé, fut un temps, l'ivoire, qui est interdit depuis. Hein, ils ne l'utilisent pas. Ou alors.
Parce qu'ils ne vont pas élever des éléphants quand même.
Non.
Non.
Non, non, non. Ils utilisent l'os, que nous on utilise également.
Oui.
Ou l'ivoire fossilisé. Ou l'ivoire végétal. Hein, mais ils n'utilisent plus d'ivoire à base de défense d'éléphants, par exemple.
Oui.
Même pour la restauration des vieux modèles. Ils en ont pas, ils en veulent pas. Ils ont des stocks de palissandre de Rio, brésilien, mais ça c'est encore légal. En ce qui concerne la nacre, qu'ils utilisent extrêmement souvent, c'est quand même une entreprise qui est extrêmement réputée pour la qualité de leurs incrustations de nacre, d'abalone, des choses comme ça. Pour être franc, je leur ai pas demandé, je me suis pas renseigné savoir si c'était quelque chose de protégé ou pas protégé, mais je le ferai, promis. Pour la prochaine émission, je leur demanderai. Par contre, j'ai vraiment cette sensation qu'ils sont assez soucieux des règles écologiques en général.
C'est
C'est-à-dire
pas
que.
du fait de construire, de fabriquer des guitares folk, parce qu'il y a quand même,
Peut-être.
il y a quand même une sérieuse idéologie
C'est vrai,
derrière.
c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, non, ils sont plus comme ça. Ils ont encore pas mal de photos où. on voit ce type d'année, les années 70, avec tout un tas de choses.
Ils n'en sont pas cultivés, le cannabis.
Non, ils s'en sont même à supprimer la cigarette, donc ça c'est interdit bien évidemment dans l'usine. Oui, oui. Mais ça va être, je crois, au courant de l'année prochaine, interdit devant l'usine, donc dans la rue.
Carrément, d'accord.
Carrément. Hein, mmh. Donc, dans un périmètre tout autour de l'usine, vous n'aurez plus le droit de fumer. Je leur ai demandé pourquoi, ils m'ont dit simplement question de santé publique. Depuis qu'ils ont interdit la cigarette à l'usine, ils ont beaucoup moins de problèmes de maladies.
Ah oui.
Donc c'est assez efficace et ils en sont convaincus, sachant que les Américains sont toujours un peu excessifs avec ça. Hein. Mais bon, ça c'est pas plus grave. Pendant 10 jours, j'ai pas fumé de cigarette et c'était très bien.
Est-ce que lorsque vous étiez dans cette usine, vous êtes tombé sur une guitare que vous ne connaissiez pas et dont vous êtes tombé amoureux ?
Oui, différente. Mais principalement, en fait, pour être franc, celle que j'ai ramenée. C'était une guitare
que vous aviez amenée là-bas.
Voilà, et
que
vous avez ramenée, oui. Exactement, que j'avais ramenée là-bas. C'était une guitare que j'avais jamais eu l'occasion de jouer et que je pouvais pas jouer parce qu'elle n'était pas restaurée. Donc on l'a restaurée ensemble et quand j'ai pu la jouer, je suis tombé des nues. C'était complètement fantastique. Une guitare avec un son. C'était une guitare, donc je l'ai dit tout à l'heure, de 1919. À cette période-là, Martin n'utilisait pas des cordes en métal. Ou en tout cas des cordes avec une grande tension. Donc pour pouvoir lui donner un son de folk actuel, mais sans arracher la table parce que la tension des cordes étant trop dure, on lui a mis des cordes en métal, mais avec une âme en soie. Et ça lui donnait un son velouté, doux. On aurait dit un mélange d'une guitare classique et d'une guitare folk. Voilà. Pour la douceur du son, pour la précision, presque un chant d'ange. Oui, elle était fantastique. Et je dis elle était parce que je l'ai vendue entre temps.
Non.
Si. À mon grand désespoir. Mais les lois du commerce sont ainsi faites qu'il a fallu que je m'en sépare. Par contre, le repropriétaire de cette guitare doit sûrement se faire un extrêmement plaisir.
C'est pas dur, ça.
Si, si.
Moi, c'est le genre de choses que je pourrais pas faire. Mais, bon.
Mais franchement, si j'avais pas une femme qui m'avait poussé. Je ne l'aurais pas fait, mais voilà. Puis le contexte actuel m'a obligé à la vendre, mais ce n'est pas grave. Par contre, pour la petite anecdote, c'est quand même une histoire, c'est quand même une guitare que même Martine, hein, ils ont un musée qui jouxte l'usine, n'avait pas dans leur musée.
Ah oui.
Ouais. J'ai vraiment pu travailler sur un instrument extrêmement rare, puisqu'il avait été fait à 950 exemplaires, je crois, à peu près.
Oui, hein. Oui.
Et entre-temps, il y en a beaucoup qui ont été détruites.
J'ai appris que Martine avait fêté cette année ses 175 ans. Okay. Et ils ont fait, pas pour cette occasion-là, mais ils ont fait la 1 millionième guitare. Est-ce que vous l'avez vue ?
Je l'ai vue en photo.
Ah.
Et je l'ai vue au musée aussi. En fait, ils ont fait une série qui est la 1000 de 1 million 1 à 1 million 50, je crois. C'est juste le passage, qui est une guitare. Alors, il y en a une qui est particulièrement spectaculaire, qui est la 1 million, je crois, tout court, qui est recouverte de nacre, qui est un boulot fantastique en matière de travail d'incrustation, avec des rubis, des diamants dessus, qui vaut, je crois, qui dépasse le million de dollars, hein, en matière de prix. Par contre, qui a un son épouvantable,
oui,
puisque forcément tout le bois a été utilisé, on n'a plus tellement de vibrations, mais qui est une pièce de musée assez, assez fantastique. Quand je vois, on la voit là-bas.
Oui, c'est ça, elle est partie au musée de Martine.
Voilà, on la voit, elle est exposée. C'est assez impressionnant. Ils ont fait également une série limitée qui est la D100, modèle D100, qui est également un modèle avec beaucoup, beaucoup d'incrustations, que là on peut acheter, qui a été fait à très peu d'exemplaires également. Je crois qu'on est dans les 100 000 dollars, la guitare. Mais pareil, c'est-à-dire que moi personnellement, je préfère les guitares beaucoup plus sobres. Par contre, en matière de travail, c'est extrêmement impressionnant. C'est même flippant. Pour être clair.
Alors à quand le prochain voyage chez Martine ?
Eh ben écoutez, j'espère très bientôt. Cette année je pense pas. Maintenant on arrive bientôt en décembre. Avec un peu de chance courant de l'année prochaine.
Mm-hmm.
Et si pas l'année prochaine, l'année d'après c'est sûr. Je me laisse encore un an et demi pour y retourner. Mais d'ici un an et demi, c'est sûr, j'y retournerai. Parce que déjà, j'ai envie de revoir toutes les personnes que j'ai rencontrées là-bas, qui m'ont extrêmement apporté et donné tellement avec simplicité, humilité. Et puis pour parfaire ma formation, qui est loin d'être finie, je pense que j'aurais pas d'une vie pour la terminer, mais c'est quand même intéressant comme aventure. Et puis parce que pour mon savoir-faire et puis pour mes clients, c'est bien que je puisse leur proposer ça, quoi. C'est-à-dire que j'ai de plus en plus de gens passionnés par ce type de guitare, et notamment par cette maison-là. Ça les rassure d'avoir quelqu'un qui soit formé en face d'eux.
Alors moi, je vous propose une chose. On va suivre les pérégrinations d'Alexandre chez Martine.
Avec grand plaisir.
À chaque voyage.
Une émission.
On se retrouve.
D'accord.
Et puis on voit si la philosophie d'Alexandre a changé.
D'accord.
Si... comment ça évolue?
Pour l'instant, ça n'a pas beaucoup changé. Hein.
Du côté de l'atelier, comment cela évolue du côté de l'atelier et comment cela évolue aussi au niveau de chez Martine?
Absolument, avec grand plaisir. Et puis s'il y a des auditrices ou des auditeurs qui ont des questions particulières, mm-hmm. des choses qui les intéresseraient sur mon métier qui est passionnant, en tout cas qui me passionne, ben, faut pas hésiter.
Voilà.
Je reviendrai volontiers pour
très
vous raconter
bien.
Tout ça.
Très bien, vous entendez tous. Très bien, merci beaucoup Alexandre.
Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.
D'être venu pour nous raconter vos aventures. Et puis bah, à très bientôt, alors, au tout moins l'année prochaine pour le second voyage.
Avec grand plaisir. La prochaine fois, j'essaierai de revenir avec une de mes guitares. Il y en aura une nouvelle sur moi.
Oui, voilà. Ça sera avec plaisir. Avec plaisir.
Comme ça, on l'écoutera aussi.
Très bien. Merci beaucoup, Alexandre.
Merci.
Bonsoir à tous. Ici, Autre Radio, Autre Culture. À bientôt. Autre Radio, Autre Culture.